Il m'est arrivé de suivre Jean-Paul II dans de nombreux voyages comme journaliste accrédité, donc dans l'avion du pape. Nous sommes une cinquantaine, soixantaine dans la classe économique, mais nous pouvons bien sûr faire notre travail avec beaucoup de chance. Et le 6 mai 2001, il se trouve que j'étais dans le pool, ce qu'on appelle le pool, c'est les petits groupes rapprochés à Damas, dans la mosquée des Omeyyades. C'est un souvenir magnifique parce que les Omeyyades, c'est une des plus belles mosquées, d'ailleurs à l'origine une église dédiée à Saint Jean-Baptiste, puis Damas, évidemment, Saint Paul. Mais il y avait là une atmosphère toute particulière parce que c'était une immense cour en marbre blanc, c'était une lumière de fin d'après-midi, il y avait des oiseaux, une paix indicible, et le pape Jean-Paul II entre dans cette mosquée pour la première fois, donc depuis la fondation de l'islam. C'était déjà un homme âgé, il se déplaçait avec beaucoup de mal, il claudiquait, comme on dit, mais il était très ferme dans ses propos également. Il a, à ce moment-là, prononcé un discours remarquable sur la nécessité d'enseigner le respect réciproque entre catholiques et musulmans, et entre musulmans et catholiques, mais aussi entre jeunes chrétiens et jeunes musulmans, et surtout à récuser toute violence. C'était il y a 10 ans seulement. Bientôt jour pour jour d'ailleurs. Mais c'était il y a un siècle. C'était avant le 11 septembre 2001 et le drame américain. C'était avant le fameux discours de Benoît XVI à Ratisbonne le 12 septembre 2006 qui fâcha le monde musulman pour un mot de trop sur la violence, je cite, de l'islam. Dans l'introduction d'un discours d'ailleurs qui restera comme un des grands discours du pontificat, je vous recommande d'ailleurs de le relire sur les relations entre la foi et la raison. C'était avant le 3 juin 2010, l'attentat en Turquie de Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique dans le sud de la Turquie, tué par son chauffeur. Un homme qui avait beaucoup travaillé sur le synode sur le Proche-Orient que le pape a convoqué à l'automne dernier. C'était avant le 31 décembre 2010 où les fidèles chrétiens syriaques de Bagdad se sont fait mitrailler pendant la messe. 46 fidèles tués, 7 policiers, 5 assaillants, 60 blessés. Il se trouve que j'ai pu rencontrer le 11 février dernier à Lourdes 40 de ces blessés qui sont soignés en France, convalescents. Et je reste bouleversé, touché peut-être à vie par le témoignage de la mère d'un des prêtres qui célèbre la messe, qui évidemment assistait à la messe et qui a vu son fils visé en premier puisqu'il célébrait, et qui a vu mourir dans le temps d'après son second fils venu secourir son frère. C'était avant le 31 décembre 2010, où un attentat contre une église copte d'Alexandrie en Égypte a fait cette fois 21 morts et 79 blessés. C'était avant le 2 mars dernier, où au Pakistan, Shahbaz Bhatti, ministre catholique des minorités religieuses, a été assassiné par des talibans pakistanais dans sa voiture. Donc, la visite de Jean-Paul II à la mosquée des Omeyyades de Damas, le 6 mai 2001, ce climat de paix, semble être un vieux souvenir. Je dis, non, ce n'était pas il y a 10 ans, c'était il y a un siècle. À se demander si la candeur du vol de ces colons, de ces oiseaux, cette paix du soir, cet air très léger, serait aujourd'hui remplacée par la volée des grenades et le froid cliquetis des chargeurs de Kalachnikov. J'ai eu des détails vraiment par les blessés sur cette tuerie de Bagdad hallucinant. Les catholiques face à l'islam, affrontement ou conciliation. Affrontement. Al-Qaïda a évidemment revendiqué l'attentat de Bagdad en parlant de chrétiens, des chrétiens comme des cibles légitimes. Affrontement. J'ai rencontré juste avant Noël Monseigneur Louis Sacco, l'archevêque chaldéen de Kirkouk, dans le nord de l'Irak, qui annonçait avec une grande tristesse que cette année, les messes de Noël n'auraient pas lieu, ne seraient pas célébrées, les messes de minuit plutôt, ne seraient pas célébrées en Irak pour des raisons de sécurité. Alors il lui disait, ce ne sont pas des Irakiens, ce n'est même pas Al-Qaïda, ce sont des groupes armés qui, c'est vrai qu'on était en pleine formation du gouvernement, qui sont commandés pour passer des messages politiques. En attendant, les hommes, les femmes sont morts, il y a des blessés, et cet évêque est un homme brisé. Conciliation. Il se trouve que j'ai eu juste après la chance de me rendre au Maroc, à Midelt, dans ce qui reste de la communauté Notre-Dame de l'Atlas, c'est-à-dire l'ancienne communauté de Tibirine, qui s'est rapatriée au Maroc. Et j'ai pu rencontrer, pour une longue interview, d'ailleurs publiée dans le Figaro Magazine, le frère Jean-Pierre, le seul survivant de ce massacre. Et lui m'a dit: les vrais musulmans sont honteux, je le cite, de ce qui se passe. Ce n'est pas ça la religion. Il ajoutait, on ne se connaît pas. Évidemment, cela suscite des montées de violence, de peur, des durcissements. Mais il faut continuer, je le cite, à dialoguer, même, disait-il, quitte à se faire rouler, c'est le mot qu'il employait, quitte à se faire rouler. Mais comme Christian de Chergé, donc le supérieur du monastère de Tibérine, conservait l'espérance invincible, et il conclut, même quand on meurt sous les coups, l'espérance doit rester ouverte. J'avoue que je suis resté très perplexe devant ce grand écart entre l'affrontement, la conciliation, le bouleversement du cœur grand ouvert de frère Jean-Pierre, du témoignage de ces moines de Tibérine, et puis ces plaies toujours ouvertes, ces blessés. J'ai eu par exemple le témoignage, et justement ce quelqu'un ne voulait pas parler, d'un jeune ingénieur de 25 ans qui a perdu son bras pour avoir tenu la porte de la sacristie, repoussant une grenade une fois, une deuxième fois, la troisième fois, il a perdu le bras. Donc c'est des choses qui restent. On parle d'ailleurs pas assez des blessés. Et en même temps, il se trouve que le supérieur de l'abbaye de Midelt au Maroc s'appelle aussi Jean-Pierre, donc un autre frère Jean-Pierre, lui est aussi moine cistercien, et me racontait qu'il était absolument convaincu de l'inutilité pour les catholiques ou ces moines comme les moines de Tibérine de vouloir témoigner dans le milieu musulman islamique, ça ne servait absolument à rien. Lui-même était allé en Afrique, en Afrique noire, mais il est aujourd'hui le supérieur de la communauté de Tibérine, enfin l'ex-communauté, parce qu'il a compris quelque chose. Cela dit, je restais perplexe. Que penser? Et puis, il y avait encore une goutte qui a un peu fait déborder le vase. C'est une actualité toute récente, début janvier. Une polémique qui m'a vraiment laissé, encore une fois, assez perplexe entre l'Égypte et Benoît XVI. Donc, il y a eu l'attentat d'Alexandrie et le pape Benoît XVI a demandé que les chrétiens soient mieux protégés. Ce que l'Égypte a très mal pris, considéré comme une ingérence. Le gouvernement égyptien, tombé depuis, a rapatrié son ambassadeur, l'ambassadeur au Prince-Saint-Siège. Et puis, ce qui m'a paru comme un signe quand même assez inquiétant, l'université Al-Azhar du Caire, donc qui est l'université de référence pour le monde sunnite, 85% du monde musulman, a stoppé, interrompu, suspendu un dialogue qu'elle entretenait pourtant depuis des années avec le Saint-Siège. C'était vraiment, je dirais, le fil, un des fils d'espérance les plus forts entre l'Église catholique et le monde musulman, puisque c'était au plus haut niveau, pourrait-on dire, un dialogue de grande qualité, de grande richesse. Donc, grande perplexité, je répète le mot, très difficile de voir clair, de trancher. Que penser? Mais que penser? Conciliation, oui, affrontement, il y en a. Et je crois que l'enjeu justement de cette conférence, merci aux organisateurs d'avoir choisi ce thème, est vraiment crucial. Nous ne sommes pas dans un exercice d'école, nous ne sommes pas dans une hypothèse j'irais de chambre. Nous sommes vraiment dans une problématique extrêmement réelle, extrêmement concrète, extrêmement difficile, comme le président l'a souligné en introduisant ses propos. Mais, je viens de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Je viens, finalement, de construire sur des choses dramatiques, et je ne remets pas du tout ça en cause, mais de construire un amalgame, une pyramide de la terreur. D'ailleurs, je crois que ça se sent dans la salle. Et j'ai stigmatisé, en un seul mot, musulman, islam, une population d'un milliard, de plus d'un milliard de personnes appartenant à de multiples cultures. Alors, pour commencer à répondre à la question, parce que c'est bien ce qu'on m'a demandé, je vous propose de suivre trois temps assez rapides, je vous rassure. Et puis, il y aura bien sûr un temps pour les questions. Premier temps, peut-être première leçon, distinguer. Distinguer. Refusez donc ce genre d'amalgame, facile à construire, vous en convenez. Refusez cette stigmatisation facile d'une population religieuse. Il y a de multiples façons de distinguer, je vais aller assez vite. Mais tout d'abord, de qui parle-t-on? De qui parle-t-on? Le monde musulman, c'est évidemment une entité mondiale, c'est 1,3 milliard exactement de musulmans, dont 930 millions, quasiment la majorité, presque le milliard, vivent en Asie, en Indonésie, 200 millions, Pakistan, Bangladesh, en Inde. Je dirais qu'il y a seulement 240 millions au Proche-Orient. Et seulement 130 millions en Afrique du Nord. Et 15 millions sur 466 millions d'habitants en Europe. Donc, c'est d'abord une entité mondiale extrêmement complexe. Alors, vous me direz, c'est la même foi, c'est la même religion. C'est vrai. Il y a le concept de l'Oumma. L'Oumma, cette communauté de foi qui réunit, qui est censée réunir tous les musulmans. Mais quand on regarde bien, la réalité de l'Oumma est d'abord une réalité, j'irai bien sûr sur fondement religieux, mais d'ordre culturel. C'est une sorte de. J'oserais dire, c'est comme si on disait que, au fond, il y a les chrétiens dans le monde. Les chrétiens, c'est 2 milliards 3. 2 milliards 3 chrétiens dans le monde. C'est comme si vous disiez, ben voilà, il y a les chrétiens et les musulmans. Or, les chrétiens, prenons le seul exemple, voilà, le genre d'amalgame, c'est dire. Un catholique de Fatima égale un moscovite orthodoxe russe égale un anglican de la city londonienne égale, à la limite, un évêque clandestin chinois. Qu'ont-ils de commun? Bien sûr, la foi au Christ. Mais ils sont totalement différents. Ils ont des intérêts totalement différents. Ils ont des contraintes totalement différentes. Je ne dis pas ça pour relativiser, évidemment, l'Oumma, mais je tente de distinguer les problèmes. Donc les musulmans sont eux aussi profondément divisés. On ne le voit pas suffisamment. J'étais avant-hier à Paris pour une conférence de presse du bureau du Conseil français du culte musulman, CFCM, le Conseil français du culte musulman, une structure qui a été créée il y a une dizaine d'années pour fédérer justement l'islam de France. On avait là devant nous 8 personnes qui représentaient toutes les sensibilité et toutes les appartenances de l'islam français sont en colère contre le gouvernement qui va organiser dans quelque temps une convention sur l'islam avec des arrière-pensées politiques. J'y viendrai tout à l'heure. Mais il y avait là le président qui est marocain, un vice-président qui est d'origine algérienne. Il y avait un autre secrétaire général qui est plutôt lui d'origine turque. Et même si, évidemment, ils présentaient un visage uni de l'islam, ils étaient totalement différents dans leur approche et dans la façon dont ils posaient les problèmes. Il y avait aussi l'absence de l'UOIF. L'UOIF, ce sont une émanation des frères musulmans, donc une branche plutôt intégrisante, qui refusait de figurer à cette table. Donc, quand on dit islam, de qui parle-t-on ? Précisons les choses. De même, Al-Qaïda, par exemple, aujourd'hui, Al-Qaïda qui est vraiment, bien sûr, d'inspiration islamique, mais qui est avant tout une entreprise terroriste, a beaucoup de mal à fédérer ses réseaux parce que il y a une prééminence arabe et la volonté d'une prééminence arabe qui méprise profondément les Pakistanais, par exemple. Aucun Pakistanais, même si aujourd'hui Al-Qaïda est réfugié en partie au Pakistan, aucun Pakistanais n'est admis dans le haut commandement de Al-Qaïda. De même avec les Noirs africains musulmans. Donc, vous avez un entrelac de nationalité, d'appartenance, de sensibilité extrême. Sensibilité, justement, vous avez dans ce monde-là la gamme complète que nous connaissons dans le catholicisme, du traditionalisme. Vous avez toute la gamme et à tout moment, il faut bien aussi s'en rendre compte. Et c'est toujours intéressant, à ce titre, de rencontrer des musulmans, de discuter avec eux. Vous avez aussi les grandes, sur un plan plus religieux, je n'entre pas dans les détails, mais la grande distinction chiite-sunnite, donc les chiites plutôt en Iran, Irak, Liban en partie, Koweït, Émirats arabes, et minoritaires en Syrie, les sunnites donc 85% de la population, donc c'est deux visions complètement différentes. On a ce raccourci pour dire grosso modo les chiites c'est les catholiques de l'islam et les sunnites c'est les protestants, parce que chez les chiites il y a une hiérarchie religieuse, il y a des représentations que n'a pas le monde sunnite. Mais je vous donne un exemple très concret. Ce matin, hier, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a injecté, pour calmer les révoltes sociales, 70 milliards de dollars. D'ailleurs, ce serait bien que... enfin, bon, c'est une mauvaise idée. 70 milliards de dollars pour acheter la paix sociale. Il y a 20% de chiites en Arabie Saoudite. Ils sont exclus de cette manne parce qu'ils sont chiites. Donc ce n'est pas si simple. Regardez aussi ce qui se passe dans toute cette actualité donc, qui a commencé en Tunisie, Libye, évidemment aujourd'hui, enfin très fortement aujourd'hui, un petit peu au Maroc, Algérie, bon, Égypte bien entendu, là, on parlait d'un sang de l'Arabie Saoudite, tout cet arc méditerranéen qui est en surchauffe. Si on regarde bien les motivations, on craint les frères musulmans en Égypte, justement, intérêt de suivre le référendum qui se déroule aujourd'hui. Mais c'est d'abord des revendications politiques, démocratiques, sociales. Bien sûr, il y a certains souffles sur la braise religieuse, mais c'est beaucoup plus nuancé et complexe que cela. Donc, je vous appelle... Et là, c'est un peu pas un mode d'emploi, c'est à distinguer. Il faut, quand on prend ce problème, vraiment savoir, première chose, de qui on parle, à quel endroit exactement. Deuxième leçon, discerner. Donc distinguer, j'étais disons plutôt sur l'aspect extérieur, objectif, on essaie de cerner un objet d'étude. Discerner, on va être un peu plus en psychologie, en intériorité. Donc tout à l'heure je disais de qui parle-t-on, maintenant je dis d'où parle-t-on. Alors Jacques Berset, qui est l'agence APIC, un collègue avec qui j'ai travaillé, qui est là, connaît très bien ce monde des chrétiens moyen-orientaux, et j'ai aussi moi, l'occasion de rencontrer souvent. Mais quand vous parlez avec des chrétiens irakiens, quand vous parliez avec des chrétiens irakiens avant l'invasion américaine, ça allait très très bien. Ils étaient très loyaux au régime de Saddam Hussein. Il n'y a pas de problème majeur avec les autres musulmans. Aujourd'hui, ils sont persécutés, pourchassés. C'est un véritable drame. C'était des gens d'élite dans le pays, c'était des médecins, des ingénieurs. Ils posaient le problème de la présence chrétienne en milieu musulman très différemment de ce qu'ils posent aujourd'hui. Les Syriens, c'est pareil, très loyaux au gouvernement, sans gros problème, sauf qu'aujourd'hui, ils doivent accueillir beaucoup de réfugiés irakiens. Les Libanais, vous parlez des Maronites, qui ont encore pignon sur rue, qui ont été quand même, il y a encore peu, en position politique. Pour eux, ils sont assez respectés encore comme entité religieuse et comme chrétiens. Voilà des gens qui regardent le problème d'une façon encore toute différente. Vous allez un peu plus au sud, chez les Palestiniens, et là, on va d'abord avoir des problématiques politiques avec Israël, mais sur le plan musulman, plutôt une bonne entente. Ils sont même alliés objectifs d'une certaine manière avec leurs frères musulmans. Bon, il y a eu évidemment l'affaire de la mosquée de Nazareth, tout ça, mais ça, c'est des épiphénomènes. Globalement, les chrétiens en Palestine, bon, ça va très mal parce démographiquement, ils sont en train de mourir. Mais on a une problématique encore différente. L'Égypte avec les Coptes, c'est encore autre chose. On a eu, il y a très peu de temps, au mois d'octobre dernier, ce synode passionnant organisé par le pape à Rome sur la présence des chrétiens en Proche-Orient. Donc, problématique, le Proche-Orient aura-t-il encore des chrétiens dans un siècle? C'est un peu ça. Mais c'est quand même 11 églises. 11 églises orthodoxes, 6 églises catholiques. C'est un monde aussi très divisé et ça n'est pas du tout un détail dans la situation actuelle. Le premier problème des chrétiens au Proche-Orient, c'est leur division, avant d'être un problème d'écrasement par l'islam. Même si, c'est vrai, pendant ce synode, la note était de dire, tous disaient, on constate un durcissement des relations avec l'islam, la montée d'un islamisme intégriste, souvent lié à des questions politiques et sociales, mais très lié à l'invasion américaine de l'Irak. Il y a vraiment eu un avant, un après. Et puis, bien sûr, très lié à la question d'Israël et de la Terre Sainte. Donc, je ne m'amuserai pas ici à multiplier des points de vue pour jouer un peu sur une sorte de relativisme en disant, vous savez, le problème n'est pas si grave, regardez. Ce n'est pas du tout ça. J'insiste sur cette question, d'où parle-t-on? Encore une fois, comme tout à l'heure, je vous dis, essayons de distinguer. Là, ici, il faut bien discerner d'où parle-t-on. Parce que vous pouvez rentrer absolument alarmé d'une soirée. Il m'est arrivé d'animer des soirées débats avec des Irakiens réfugiés, et Dieu sait qu'ils sont dans des situations impossibles. Et puis, avoir le lendemain matin un entretien avec un maronite qui va complètement vous rassurer. Alors, je ne dis pas qu'il faut se laisser brinque-baller au gré des opinions, mais tout de même. Autre question dans cet effort de discernement, de quoi parle-t-on? Et là, je reviens à cette actualité française, donc, qui anime le débat politique depuis 3 semaines, 1 mois, où, donc, en 2 mots, le Front National, parti d'extrême droite, a fustigé les mosquées, la prière des musulmans dans la rue. L'UMP, donc, qui est au pouvoir, pour ne pas laisser ce dossier à la seule extrême droite, a dit: nous organisons le 5 avril une convention sur l'islam pour mettre le problème sur la table. Tollé en France, dans le monde religieux, dans le monde politique, c'est pas possible, on ne faut pas toucher à ça, la loi 1905, la loi de séparation de l'Église et des religions, c'est électoraliste, bref, on est dans une cacophonie, un mélange total des genres. La problématique est purement politique, mais l'islam, les mosquées, les élections, bref, on est dans un mélange total de concepts, d'où cet appel au discernement, toujours de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'islam mondial comme force politique, qui a un gros problème de leadership? Il y a une vraie concurrence entre les pays arabes qui essaient, le Maroc, le roi, le titre de commandeur. Mais l'Arabie Saoudite avec ses pétrodollars, la Jordanie essaie aussi de tirer ça. Chacun essaie d'être le représentant, d'incarner un peu l'islam mondial. Il n'y a pas de Vatican, il n'y a pas de Vatican de l'islam. Donc, islam mondial, force politique. Est-ce qu'on parle de l'islam comme religion mondiale? Je ne reviens pas sur ce que je dis tout à l'heure, qui reste quand même une entité un peu vague en tant que telle, il faut dire de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'islam des élites, de l'islam de la rue? J'ai pu aller, ben, il y a 2 ans au Caire, justement. rencontrais des gens à Lazare. Voilà, vous avez des gens d'une grande qualité intellectuelle, d'une grande classe. Je veux dire, distinguons, distinguons. Est-ce qu'on parle de l'islam comme culture figée? C'est vrai que là, il y a un vrai problème. On ne touche pas au texte. L'intelligence ne doit pas effleurer le texte sacré. Et là, il y a actuellement un gros blocage qui n'a pas toujours été dans l'histoire de l'islam. Mais en même temps, les gens vivent. On m'a raconté en Iran, par exemple, quelqu'un qui avait vécu dans une famille iranienne. On sort, on est équipé, tchadorisé, et puis on rentre, on ferme bien les volets, et hop, c'est la vie à l'occidentale. Et avec des gros problèmes éducatifs, justement, parce que ça crée des comportements quasiment schizophrènes, quoi. Et on sent aujourd'hui Internet, 70% des musulmans sont analphabètes. Et ça, c'est un gros problème. Alors, la culture augmente et l'arabe se parle de mieux en mieux, de plus en plus. Ça veut dire aussi que les gens accèdent plus directement au texte. Ça veut dire aussi qu'on va aller vers une culture où la sphère privée pourra aussi dire son mot par rapport à ce qu'il faut, ce qu'on doit penser. Donc tout ça est en pleine évolution. Est-ce qu'on parle de l'islam comme culture intolérante? Là, évidemment, on a un vrai et gros problème. Quand j'étais l'autre jour dans la banlieue de Lyon, justement avec des chrétiens irakiens réfugiés qui s'étaient établis là et qui commencent à vouloir prendre un peu de distance parce que leurs filles, qui sont des Arabes, sont inquiétées parce qu'elles sont chrétiennes et qu'on veut les marier avec des musulmans. Bon, là, il y a des problèmes de conscience, droit de conscience, interdiction de se convertir. Enfin, bon, je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Est-ce qu'on parle de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'islam majoritaire dans les populations immigrées des populations européennes? Est-ce qu'on parle de l'islam épouvantail cristallisant un peu toutes nos peurs d'occidentaux un petit peu décadents? C'est vrai que l'avenir de la démographie, de l'identité pose de gros problèmes et par là devient un enjeu. Parfois un peu simplificateur, un enjeu électoraliste très, très, très facile, très important. On voit une montée du populisme actuellement en Europe, sur fond justement de peur de l'islam. Est-ce qu'on parle de l'islam guet-apens, une sorte de cheval de Troie? Vous voyez, ils arrivent là, profil bas, puis après, quand ils seront majoritaires, ils nous imposeront la charia, etc. Bon. Tout ça, ce sont des questions, mais des questions qui appellent un discernement, qui appellent de l'étude, de l'approfondissement, mais qui appellent surtout un éveil de l'intelligence. Nous devons justement ne pas nous laisser parasiter, impressionner par des simplismes. Dernier point sur ce discernement, pourquoi parle-t-on de cela? Est-ce qu'on essaie de saisir au fond cet objet géopolitique majeur qu'est l'islam en Occident, mais aussi en Afrique, en Asie, avec par exemple un sujet passionnant à suivre, c'est les effets de la politique d'Obama, qui est passée de la lutte, disons, du front du bien contre le front du mal, à, c'est le fameux discours du Caire en juin 2009, disons, nous appelons tous les musulmans de bonne volonté à lutter contre l'extrémisme musulman. Et ça, c'est une bonne problématique, me semble-t-il. Ça porte, commence à porter des fruits. Savoir si on parle des questions de paix sociale dans les banlieues agitées. On a eu, par exemple, la semaine dernière, encore une grosse casse en banlieue parisienne, mais ce sont des bandes, on va dire c'est des musulmans, mais attendez, ce sont d'abord des bandes de jeunes. Effectivement, issus d'immigration, il y a des musulmans, il n'y a pas que des musulmans, et c'est d'abord un problème de violence urbaine. Est-ce qu'on veut approcher les questions de dialogue interreligieux? Est-ce que le dialogue interreligieux peut déboucher sur quelque chose? Ou alors on peut aller sur des questions beaucoup plus pratiques. Pourquoi parle-t-on de l'islam? Est-ce qu'il faut construire une mosquée dans tel quartier? Quand le président du CFCM français, le Conseil français du culte musulman, dit: nous manquons honnêtement de, je crois qu'il y a 1 400 mosquées, il faudra encore 600 mosquées en France. Ça paraît comme ça des chiffres affolants. Rapporté à la population de pratiquants, c'est pas du tout irraisonnable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont là, ils habitent là, ils ont. Donc, autant de questions qu'il faut se poser, hein, encore une fois, pour éviter, pour essayer de justement discerner nos intentions, peut-être certains de nos a priori, faire un peu le tri dans notre approche de l'islam. Reste quand même la réponse à la question, parce que là, c'est bien facile de faire peur, ensuite de discerner, de distinguer. Mais qu'est-ce que je réponds à cette question? Et c'est mon dernier point. Et je vous propose au fond une troisième leçon autour du mot discuter. Nous avons distingué, nous avons discerné, il faut discuter. Et là, au risque de vous choquer, je dirais, commençons par ne pas céder à l'angélisme ou à la naïveté. Je trouve qu'il y a parfois dans nos milieux une bienveillance qui peut confiner une certaine naïveté. Je crois qu'il faut faire l'effort intellectuel d'aller jusqu'au bout dans la connaissance de l'islam, de ce que l'on veut étudier, on ne peut pas tout étudier en soi, bien connaître les choses, mais ne pas céder à la naïveté. Et en même temps, on reproche souvent aux spécialistes du dialogue interreligieux d'être naïfs, et moi je me retiens bien de ces accusations faciles. Parce qu'il y a quand même des gens qui, depuis des années, à haut niveau local, ça peut être dans un quartier, etc., nouent des liens d'amitié. Je crois qu'ils font aussi un gros travail là. Ce n'est pas à balayer d'un trait de main en disant ce sont de pauvres angéliques, de pauvres naïfs. Je crois qu'il faut respecter, ne pas confondre justement cette bienveillance requise, qui est structurelle quand on fait du dialogue interreligieux, avec la nécessité avec cette accusation de naïveté, quoi. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous devez faire preuve de bienveillance, ça fait partie du jeu, et du jeu honnête, c'est pas une manipulation. Donc, je dis discuter parce qu'il me semble que nous arrivons à l'heure actuelle, et le pontificat de Benoît XVI, me semble-t-il, est un tournant, marque, on le comprendra peut-être plus tard, marque quelque chose dans cette dimension. Nous arrivons à un nouveau rendez-vous historique avec l'islam. Et plus que la notion d'affrontement, plus que la notion de conciliation, ces deux mots de la problématique de la conférence, j'en fabriquerai un, j'utiliserai un petit peu des deux, je dirais confrontation. J'ose prononcer ce mot de confrontation. Parce qu'il me semble que une certaine époque du dialogue est un peu épuisée. On le voit d'ailleurs quasiment au même niveau avec le monde protestant, avec le monde orthodoxe. Je crois que depuis 40 ans, l'Église catholique a absolument serré toutes les questions possibles, tous les dialogues possibles, ouvert tous les chapitres, toutes les portes, tous les rayons possibles. On a fait l'inventaire du dialogue. On sait exactement là où on peut avancer, on sait exactement là où ça bloque et là où ça bloquera toujours. Donc on est un peu dans cette phase-là. On entre, je sais que le mot confrontation est un peu choquant, mais pour moi, la confrontation, c'est d'abord une explication sereine. Mais elle me paraît assez inévitable. Il y a deux niveaux de confrontation. Encore une fois, se confronter ne signifie pas s'affronter, mais c'est inventorier des points de vue. Confronter, c'est éviter des faux-semblants. On a toujours un peu tendance dans le dialogue à se faire plaisir ou se protéger. Mais mieux se connaître, se confronter, amène au respect. Respecter et être respecté. Et je ne dis pas se faire respecter, parce que là, on entre dans une dimension de force. Être respecté par ce qu'on est, tout simplement. Et là, je crois que Benoît XVI apporte quelque chose de une sorte de petite révolution dans l'Église, parce qu'il a compris que nous avons changé d'époque. Et qu'il oblige en quelque sorte les catholiques à se poser la question de leur identité. Si on réfléchit bien, tout ce qu'on voit, alors certains vont être affolés par les dentelles et les questions de liturgie, D'autres vont le critiquer parce qu'il va aller à Assise, comme Jean-Paul l'a fait là en octobre prochain. Bref, il a, je crois, tous les défauts, mais il a aussi toutes les qualités. C'est un homme d'une grande intelligence. Ne tombons pas encore une fois dans des simplismes. Mais en tout cas, il oblige à penser la confrontation. Penser la confrontation. On le voit aussi avec l'esprit du monde. Regardez son dernier livre. Sa lutte contre le relativisme, c'est une confrontation intelligente. On sait que, interroger les théologiens avec l'islam, ils savent qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'issue sur la question de l'incarnation du Christ. Il n'y a pas d'issue, c'est pas, c'est inconciliable. Donc c'est pas là que les choses peuvent avancer. Un point de conséquence par rapport à cette politique de Benoît XVI, c'est la réciprocité. On a vu qu'il a beaucoup plus que Jean-Paul II insisté maintenant sur la question de la réciprocité. Construisons des mosquées en Europe, mais construisons des églises dans les pays où on refuse qu'elles soient construites. Mais pas de façon agressive, violente. Et puis, cette confrontation intelligente oblige à poser le problème, et là je trouve que malheureusement, l'Église est un peu en retrait depuis quelque temps, notamment avec bon, l'actualité de l'Afrique du Nord l'oblige évidemment à être très prudente. Et puis l'affaire de la rupture des relations avec à l'université Al-Azhar a évidemment joué son rôle. Mais ça oblige les élites à se positionner. Parce que le problème, ce sont les élites. C'est au niveau des élites que les choses vont pouvoir avancer. Et cette confrontation, plutôt qu'elle se fasse dans les boutiques, dans la rue, c'est les élites qui ont cette responsabilité. Et quand une entité comme l'Église catholique se met en position de dialogue et de discussion avec des élites musulmanes, ça oblige ces élites musulmanes à sortir du bois, à se définir. On a vu ça magnifiquement, au voyage en Terre Sainte au printemps 2009, en Jordanie notamment. C'est très impressionnant de voir à quel point la qualité du dialogue, qui n'était pas seulement d'ordre d'intérêt politique, de manipulation avec les musulmans jordaniens. Au fond, les responsables musulmans sont assez isolés parce qu'ils sont prisonniers souvent. Et là, on voit la grande liberté de l'Église catholique d'être universelle. Ils sont souvent prisonniers de contraintes nationales, d'engagements nationaux, politiques, culturels, qui les paralysent. Si l'Église catholique mène un dialogue au niveau des élites, un dialogue de confrontation intelligente, hein, j'espère que je me fais bien comprendre, c'est le contraire d'une croisade. Hein. La confrontation, pour moi, c'est le contraire de la croisade. Ça n'a rien à voir. C'est on affirme ce que l'on croit, ce que l'on est, simplement, sereinement. Donc, ça, c'est sur la forme, une confrontation au plus haut niveau. Sur le fond, je propose trois plan. Et ce sera ma conclusion quasiment. D'abord, savoir, donc, dans cette confrontation, savoir ce que nous devons respecter à tout prix. Il est quand même inadmissible que des hommes politiques, moi je vois des comportements vraiment indignes, traitent des croyants comme ils le font. Je considère qu'un homme croyant est éminemment respectable, quelle que soit sa foi. J'ai eu encore au Caire ou dans d'autres mosquées, des moments, quand vous regardez ces gens prier, j'ai rien à dire. La religiosité, elle est respectable. Donc, nous devons respecter des choses et il faut le savoir. On ne juge pas, je trouve qu'on a une société laïque, en tout cas en France, qui est extrêmement violente sur les croyants, et on ne peut pas transiger là-dessus. Donc savoir ce que nous devons respecter à tout prix. Deuxièmement, chercher ce que nous devons apprendre dans cette confrontation, car nous devons apprendre. Et nous devons apprendre notamment cette simplicité de poser la question de Dieu sur la place publique. C'est quand même, ils sont quand même un sacré. Enfin, c'est pas du culot, mais quand même. Ils n'ont pas peur. En France, dès qu'on prononce le mot. Excusez-moi de parler de la France, mais. Dès que vous dites que vous êtes croyant, dès que vous faites un signe de croix, enfin, tout de suite, ça y est, atteinte à la laïcité. C'est n'importe quoi, où est-ce qu'on est? Alors, il ne s'agit pas d'aller faire une croisade, d'aller remettre le christianisme comme ça, de but en blanc. Mais les musulmans, nous, sont porteurs d'une leçon. Ils osent mettre Dieu au centre. Et je crois qu'on peut en prendre de la graine. Et notamment la laïcité française qui est travaillée en ce moment par la question de l'islam, qui l'oblige à revoir cette question, qui oblige la philosophie des Lumières, qui avait évacué la question de Dieu, à la repenser. Troisièmement, savoir ce que nous devons tenir. Et là, je m'adresse directement aux étudiants de Philanthropos. Parce que l'anthropologie, la philosophie, la connaissance de la personne, le personnalisme, allons-y, la question de la liberté de la conscience, la séparation de ce qui est à Dieu, de ce qui est à César, l'égalité de l'homme et de la femme, le droit de l'intelligence, le devoir de l'intelligence de questionner, de critiquer la foi pour approfondir toutes ces questions dont nous sommes les héritiers, toute cette culture de l'intelligence, de la personne, de la conscience, là, nous devons tenir. Parce que je trouve qu'il y a, et d'ailleurs le pape parle de capitulation de la pensée humaniste, c'est quand même pas un petit mot, hein. Capitulation de la pensée humaniste, de la pensée occidentale, il ne s'agit pas, encore une fois, de partir en croisade, mais il s'agit d'assumer un héritage dans la paix, sereinement, et ne pas se laisser guider par, finalement, les ultras. Parce que ce n'est pas les musulmans modérés, on peut discuter de cette notion, hein, c'est encore un autre sujet, mais ce n'est pas ça, le problème, il n'est pas là. Aujourd'hui, ce qui se passe dans beaucoup de religions, c'est que ce sont les ultras qui donnent l'agenda, qui donnent le tempo. Et en face, une sorte de paralysie, on n'ose plus. Et quand je dis modéré, c'est avoir être héritier d'un héritage de pensée, un héritage culturel que nous devons tenir. Il ne s'agit pas de, encore une fois, de mener une croisade. Et enfin, dernier point, peut-être savoir dans cet effort, savoir où est notre place. Parce que je pense quand même dans cette question, hein, affrontement au dialogue, je pense quand même que, et je le dis comme chrétien, bien sûr. Je le dis aussi comme journaliste, comme observateur, la sainteté est quand même première. C'est quand même frappant de voir aujourd'hui le renouveau de l'Église. Partout où les choses bougent, ce sont à chaque fois des histoires de sainteté. C'est assez étonnant. Je ne dis pas cela pour dire que les autres avant n'étaient pas saints, c'est pas du tout ça. Mais le renouveau se joue aujourd'hui partout. Sur des gens qui un jour décident ben, de tout donner. Et notre place, elle est peut-être là. On n'est peut-être pas forcément au premier rang, en tout cas, dans le dialogue avec les musulmans. Mais derrière cette attitude fondamentale du croyant, c'est de l'exigence, mais beaucoup de bienveillance. C'est de la critique. Moi, je suis militant de la critique au sens thomiste du terme, l'intelligence est faite pour aller chercher dans les angles, fouiller, comprendre, mais aussi l'humilité. Ça ne peut pas aller, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, comme j'ai commencé avec Jean-Paul II, je termine avec lui et je me permets, comme il me reste 2 minutes, de vous citer un texte qui était, j'ai fait le raccourci, bien sûr, je vous rassure, qui était son discours aux musulmans, jeunes musulmans de Casablanca, au Maroc, le 18 août 1985. Le pape Jean-Paul II avait quand même eu le culot d'aller au Maroc et d'avoir un stade rempli avec des jeunes musulmans. Et le discours est très long, je cite la fin, mais je pense qu'il faut réentendre ces mots parce que c'est une réponse à la question posée au début de la conférence. Nous sommes des chercheurs de Dieu. L'Église catholique regarde avec respect et reconnaît la qualité de votre démarche religieuse, la richesse de vos traditions spirituelles. Je crois que nous, chrétiens et musulmans, nous devons reconnaître avec joie les valeurs religieuses que nous avons en commun et en rendre grâce à Dieu. Les uns et les autres, nous croyons en un Dieu, le Dieu unique, qui est toute justice et toute miséricorde. Nous croyons que Dieu nous sera un juge miséricordieux à la fin des temps, et nous espérons qu'après la résurrection, il sera satisfait de nous et que nous savons que nous serons satisfaits de lui. La loyauté, dit-il, exige aussi que nous reconnaissions et respections nos différences. La plus fondamentale est évidemment le regard que nous portons sur la personne et œuvre de Jésus de Nazareth. Ce sont là des différences importantes que nous pouvons accepter avec humilité, respect, dans la tolérance mutuelle. Phrase très importante, il y a là un mystère sur lequel Dieu nous éclairera un jour, j'en suis certain. Il y a là un mystère sur lequel Dieu nous éclairera un jour, j'en suis certain. Deux petites phrases. Chrétiens et musulmans, nous nous sommes généralement mal compris et quelquefois dans le passé, nous nous sommes opposés et même épuisés en polémique et en guerre. Dernière phrase, je crois que Dieu nous invite aujourd'hui à changer nos vieilles habitudes. Nous avons à nous respecter et aussi à nous stimuler les uns les autres dans les œuvres de bien sur le chemin de Dieu. Fin de citation. Je me suis laissé dire que Jean-Paul II considérait, parce qu'on l'a souvent interrogé sur ce point, que l'irruption de l'islam dans les sociétés occidentales, le choc qu'elle représente, était à ses yeux providentiel. Parce que, disait-il, je ne l'ai pas eu de première main, mais je l'ai eu plusieurs personnes qui ont rapporté la même chose, qui l'ont approché, obliger les chrétiens à se réveiller en quelque sorte. Et on ne sait pas ce que cela peut donner à terme. On ne sait pas. Je reprends cette phrase de Jean-Paul II. Il y a là un mystère sur lequel Dieu nous éclairera un jour. J'en suis certain, dit-il. Donc, ni affrontement, ni conciliation, mais se confronter culturellement, distinguer, discerner, discuter, prier, aimer pour se réconcilier. Merci. Merci.